J'ai trouvé le dernier comptoir, une publicité dans le côté là, agriculture, qui disait d'ici avec passion. Hein, il nous encourage à acheter les outils, les légumes du terroir, de la région, n'est-ce pas? Alors je me suis dit, je vais m'amuser, je vais le changer un peu. Et je dis Dieu avec passion. J'ai vraiment aimé faire ce petit truc. Donc, ça nous ouvre déjà un peu au thème d'aujourd'hui. En tout cas, mais encore une fois, on pourrait se demander, ouais, bon, Dieu nous demande d'avoir de la passion. Mais est-ce que Dieu, il a une passion? Est-ce que Dieu vit ce qu'il nous demande de vivre? Alors, j'ai trouvé une citation. Non, la citation, c'est après. On va voir une vidéo. Un petit moment. Voilà, c'était un tout petit extrait d'un spectacle de Carlo Martinez que j'aime beaucoup. Alors je me suis dit en regardant ce spectacle, mais on aurait pu imaginer que Dieu, il a seulement imaginé l'univers, il est déjà là. Ou on aurait pu dire, mais voilà, et toi le Fils, toi l'Esprit, restez tranquille, ce n'est qu'un tout petit univers, rien du tout. Juste pour passer le temps. Eh bien non, nous voyons par ce vidéo que Dieu a mis de la passion. Il y a ce théologien, philosophe danois, que je ne vais pas dire le nom parce que je ne pourrai jamais, qui l'a dit, Dieu n'a qu'une seule passion, aimer et être aimé. Il ne peut ne pas aimer, presque comme si c'était une faiblesse, alors que, bien sûr, c'est sa force. N'est-ce pas? Et je prends encore un passage de la Bible quand même, on est entre chrétiens. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc nous voyons que la passion de Dieu, c'est aimer et être aimé. Et nous voyons que Jésus avait vraiment la passion de venir pour sauver ceux qui étaient perdus. Il a même quitté le ciel pour venir sur la terre juste dans ce but. Alors c'est vrai que si on regarde dans le monde, tout cela, c'est bien loin de ce qu'a dit un philosophe athée, que vous connaissez bien, Nietzsche. Dieu a aussi son enfer, c'est son amour des hommes. Mais il s'est trompé, gloire à Dieu. Alors Dieu aime tous ceux qu'il a créés. Il les dit, il écrit dans la parole, c'était beau, c'était bien. Chaque fois qu'il faisait quelque chose, il était content parce qu'il avait mis de soi-même. La Trinité a participé passionnément à la création. Maintenant, je vous demande d'essayer d'imaginer l'inimaginable. Imaginez d'être là le moment que Dieu va commencer sa création. Vous êtes là, vous pouvez voir. Et voilà que Dieu dit, que la lumière soit. Et voilà que Jésus, poussé par l'esprit, il va plus vite que la lumière. Bon, il n'y avait pas encore la lumière. Hein? C'était lui la lumière, il ne peut pas aller plus vite que lui-même. Mais quand même, c'est ça, nous donne l'image de ce moment impressionnant, si nous étions là. Hein? Ou imaginez si nous étions témoins de l'histoire du peuple d'Israël. Imaginez si nous étions témoins de la vie de Jésus. de ses œuvres, de ses miracles, de sa mort, de sa résurrection. Imaginez tout cela. Il faut être des enfants, comme dit Dieu. Hein? Et Dieu, les enfants, ils savent bien imaginer tout cela. Mais si on peut imaginer tout cela, je vous assure qu'on pourrait parler de toutes ces choses d'une manière passionnée. Parce qu'on les a vues avec nos yeux. Alors, avant de continuer, il faut quand même qu'on regarde qu'est-ce qu'il dit le dictionnaire sur ce mot. C'est la sagesse de l'homme, c'est des fois c'est aussi bon. Passion, passionné, passionné. Prendre vivement à cœur quelque chose. Manifester un très grand intérêt pour quelque chose. Intéresser vivement quelqu'un, le captiver. Donner un débat, une discussion, un ton passionné. Et quand j'ai lu cela, je me suis dit sûrement, ce n'était pas ça qui vivaient les disciples après la mort de Jésus. Ils étaient enfermés dans une chambre, ils avaient peur des Juifs. Il n'y avait pas de cette passion en ce moment-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus se montre. Jésus vient dans leur vie. Il est vivant, il est ressuscité. Ils le voient. Mais ils leur disent, attendez, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous allez recevoir le don que le Père a promis. Et donc c'est à la Pentecôte que la puissance de Dieu a été déversée sur les disciples par le don de l'Esprit-Saint. C'était le paquet qu'on a vu au début, hein, le don de l'Esprit-Saint. Et c'est à ce moment-là que les disciples étaient remplis de passion pour Dieu, de passion pour Jésus, de passion pour sa parole et de passion aussi pour les gens, passion pour la moisson. Donc, aujourd'hui, avec vous, j'essaie d'analyser quelques aspects de cette passion. D'accord? Et nous allons commencer, bien sûr, avec la passion pour Dieu. L'une de nos valeurs fondamentales doit être notre passion pour Dieu. Nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre intelligence, de toute notre force. C'est la parole même qui nous encourage à cela. Et nous cherchons d'avoir une relation avec lui, une relation personnelle, une relation intime, et à grandir en imitant ses attributs et en vivant son amour. L'une des définitions de la passion est un enthousiasme intense, un vif intérêt pour quelque chose. Donc, si nous disons d'avoir passion pour Dieu, nous disons que nous avons un enthousiasme incroyable pour lui, un intérêt profond pour lui. Si nous avons passion pour Dieu, nous disons que nous désirons Dieu, que nous avons faim et soif de lui. Hein, on le dit souvent, il faut avoir soif de la parole. Que nous avons aussi un besoin irrésistible de lui. On ne peut pas faire sans lui. Hein, on l'a chanté, sans lui on n'est rien. Et nous avons du zèle, de l'ardeur et bien sûr de beaucoup d'amour pour lui. Donc Dieu nous donne l'exemple à suivre. Nous pouvons voir à lui, on ne doit pas inventer comment être passionné. Il a tellement envie de nouer une relation avec nous qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde. Et c'était bien l'image qu'il nous donnait Camille. Hein. Il savait peut-être qu'ils vont shooter encore, mais ce n'est pas grave. Je les aime, je vais faire. Et donc, Jésus est venu. Et il est venu pour accomplir la loi, les prophètes et pour donner sa vie par amour pour l'humanité. Cela, c'est-à-dire à quel point il nous aime. Il aime passionnément l'humanité. Il vous aime passionnément. Est-ce que vous arrivez à comprendre cela? Il aime chacun de nous passionnément. Donc nous devrions ressentir le même besoin, passionné d'avoir une relation avec lui. Comme il dit ce verset, quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ce n'est pas à nous de faire le premier pas, c'est lui qui a fait. Mais nous pourrions même changer cette phrase, la reformuler, en disant, quant à nous, nous avons la passion de Dieu à cause de sa passion pour nous. Dans la Bible, nous trouvons aussi les métaphores matrimoniales. Ils décrivent la passion que Dieu a pour ses enfants. Elles sont l'expression de l'unité passionnée de cœur, de pensée et d'esprit qu'il désire avoir avec nous, comme nous voudrions l'avoir avec notre femme, avec notre mari. Saint Augustin, ou Augustin, comme vous voulez, il a dit, tomber amoureux de Dieu est la plus belle histoire d'amour, le rechercher la plus grande des aventures et le trouver la plus grande réalisation humaine. Oui, ayant de la passion pour Dieu, soyons amoureux de Dieu. Et nous passons à la passion pour Jésus. Hein? On aime bien, hein? Je vous ai dit, on aime bien couper, tout ça. Mais c'est pour vous mieux vous expliquer les choses. Alors, passion pour Jésus. J'ai ici un personnage que peut-être quelqu'un de vous connaît. Richard Wurmbrand, voilà, j'ai essayé de le dire, était pasteur en Roumanie dans les années 1960. Et il a passé plus de 14 ans en prison à cause de sa foi. Même en lisant ses livres que j'ai lus, je ne peux pas vraiment comprendre tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a ressenti dans les prisons communistes. Mais ce qui est incroyable, que lui il dit dans ses livres que c'est dans ces prisons-là qu'il dit avoir découvert un extase de bonheur profond et extraordinaire qui ne ressemble à rien d'autre dans le monde. C'est là, dans ces prisons, qu'il a reçu une passion, toute épreuve, pour Jésus. Et dans les moments plus sombres, lorsqu'ils étaient dans un petit cachot de 60 cm de carré, avec des pointes partout où ils ne pouvaient pas s'appuyer nulle part, mais en ces moments-là, en ce temps-là, dans le noir de ce cachot, il y avait une voix qui disait « Où est ton Jésus? Ton Sauveur ne peut rien pour toi. Tu t'es fait tromper, tu as suivi le mauvais homme. » Essayez d'imaginer cet homme. Mais c'est là, en ce moment-là, que lui, il a commencé à réfléchir à un poème que je vais vous donner un petit extrait. Ce poème, chaque fois que je le lis, j'ai les frissons. Franchement, voilà ce petit extrait de ce poème. Si les prophètes n'avaient pas prédit, ils avaient prédit un autre Messie, je le quitterai pour rester avec toi. Si je découvrais que tu n'es qu'un trompeur, je prierai pour toi avec des pleurs. Si tu étais un mythe, je quitterais la réalité pour vivre avec toi dans un rêve. Si tu prouvais que tu n'existais pas, tu recevrais la vie par mon amour. Mon amour est fou, sans raison, tout comme ton amour, Seigneur Jésus. » Cette histoire me rappelle aussi celle de Paul et Silas, qui étaient enchaînés dans la prison. Hein? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent les louanges de Dieu. Eh bien, je vous le dis, il y a des choses folles qui se passent dans la persécution. Vous voyez la passion de Richard, la passion de Paul et de Silas. Nous ne pouvons pas l'expliquer avec le raisonnement. Son action vient directement de nos entrailles. C'est une force en nous qui nous pousse à agir au-delà de toutes les activités normales. Dans notre quotidien, nous vivons une vie normalement. Mais avec la passion, le temps pour l'extraordinaire se présente à nous. Tout au long du livre des Actes, les disciples nous font respirer la passion, manger et boire la passion. Mais pour expérimenter cette sensation, il faut avoir de la passion pour la parole de Dieu, de la passion pour la Bible. Et c'est notre troisième point. Donc, vous savez, personnellement, j'aime beaucoup les films de science-fiction, surtout les films avec les super-héros. Hein? Je ne sais pas vous, mais quand je regarde ces films, je m'immerge dans les films. J'entre dans l'écran. Je suis à côté de mon super-héros. Vous voyez, je n'ai pas besoin de ces trucs virtuels-là. Moi, je regarde le film, je ne suis plus là, je suis ailleurs. D'accord? Mais pourquoi je vous dis ça? Ce n'est pas juste pour vous donner une information sur ma personne. C'est parce que quand je prends la Bible, quand j'ouvre la Bible, quand je lis la Bible, eh bien, moi, je vis exactement les mêmes choses. Quand je lis les Actes en particulier, mais c'est quelque chose d'impressionnant. Je vis la même chose. Alors, encore une fois, pendant que vous lisez la Bible, imaginez ce que vous êtes en train de lire. Imaginez d'être à côté des disciples le jour de Pentecôte. Ayez leur ressenti quand ils ont reçu l'Esprit Saint. Qu'est-ce qui se passe? D'un coup, il y aura le vent, un bruit puissant de vent. Et voilà la foule des gens, les juifs qui viennent de partout, ils arrivent. Ils sont pleins de curiosité, qu'est-ce qui se passe? Et là, Pierre, il sort avec les onze, n'est-ce pas? Debout, il s'exprima d'une foi forte en ces termes. Oh, désolé, je ne voulais pas vous déranger, désolé pour le bruit. Est-ce qu'il a dit ça? Non! Il avait la passion, n'est-ce pas? Homme de Judée, comprenez ce qui se passe. Hein? Prêtez l'oreille à mes paroles. Oui, après quelque temps, Pierre et Jean étaient aussi devant les chefs du peuple, les anciens, les spécialistes de la loi. Et là aussi, on a pris déjà ce texte. Hein? Jugez s'il est juste d'obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Ils n'ont pas dit... Hein? Non, ils avaient l'hardiesse, comme nous a dit Jean-Jacques. Hein? Et cette hardiesse était remplie de passion. Et nous savons que tous ces personnes-là, ces personnages, étaient étonnés devant leur assurance. Ils savaient qu'ils étaient des hommes normaux, ordinaires, des hommes du peuple, sans instruction. Mais alors, d'où venait cette manière passionnée de parler? Eh bien, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons pas. J'aurais pu vous parler de Paul. Après sa conversion, il démontre que Jésus est le Messie. Ou de Philippe, qui explique la parole à l'eunuque. J'aurais pu parler d'Étienne, qui voit les cieux ouverts et Jésus-Christ assis à la droite du Père. Vous savez, tous les livres des actes sont remplis de ces éléments. Tous les livres des actes nous montrent des hommes et des femmes remplis de passion. Pourquoi alors devrions-nous ne pas parler de ce que nous vivons avec Dieu? Pourquoi nous ne devrions pas parler de ce que nous expérimentons avec Dieu autour de nous? Bien, je vous ai parlé des super-héros et de la Bible. Bon, il faut dire qu'il y a quand même une différence entre les deux choses. Hein, quand même. Quand même. Hein, il y a une différence. Vous savez, les actions de ces super-héros-là, de ces gens-là, moi, je ne pourrais jamais les accomplir. Je ne pourrais jamais faire toutes ces choses-là. D'accord? Ces gens ne correspondent pas à la réalité. Ils ne font pas part de notre vécu quotidien. Ils sont science-fiction, justement. Mais l'histoire de la Bible sont des vraies histoires. Les actions des disciples sont réelles et historiques. Leur Dieu est notre Dieu. Nous connaissons le même Seigneur Jésus-Christ et nous avons reçu le même esprit. Ces hommes et ces femmes de livre des actes sont des hommes et des femmes ordinaires, des pêcheurs, des mamans, des employés, des ex-prostituées. Mais leur passion, ils l'ont partagée, ils ont partager leur vécu. Et nous devrions le faire aussi, comme eux. Nous sommes aussi des gens ordinaires. Ça, vous n'aimez pas trop. Hein? Non, mais vous êtes extraordinaires. Chacun de vous, devant Dieu, est unique et extraordinaire. Mais dans le monde, nous sommes des gens ordinaires. Mais comme eux, comme ces gens qui ont partagé la passion. Et à partir du jour de Pentecôte, ces hommes ordinaires ont eu aussi, ils ont reçu aussi la passion pour la moisson. Et c'est mon troisième point. C'est vrai, moisson, c'est un mot qui n'est plus tellement à la mode. On disait autrefois passion pour les âmes, c'est encore plus désuet. Aujourd'hui, on préfère parler de passion pour notre prochain. On redevient un peu humaniste, hein? Mais personnellement, je préfère garder passion pour la moisson. J'aime la manière de parler d'autrefois. Et en plus, c'est Jésus lui-même qui a utilisé ce mot. D'accord? Voyons qu'est-ce qui se passe dans l'histoire des actes encore un peu plus loin. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans les îles de Chypre et Antioche, et s'adressèrent aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Ils sont persécutés. Ils sont dispersés et qu'est-ce qu'ils font? Ils annoncent l'Évangile. Ils annoncent l'Évangile avec passion. Donc, vous voyez, aujourd'hui, nous avons eu le privilège d'écouter Raël. Est-ce que vous avez ressenti sa passion dans son récit? Est-ce que vous avez ressenti sa passion pour les gens là-bas au Togo, pour le royaume de Dieu là-bas? Que Dieu te bénisse. Tu m'as fait pleurer, fais plus ça. Dimanche passé, nous avons écouté le témoignage de Philippe. Il est là? Est-ce que vous avez ressenti sa passion quand il nous disait « J'ai annoncé l'évangile hein? » Il était demi-mort dans l'ambulance et il devait encore embêter le pauvre ambulancier là. Hein? Mais vous avez ressenti sa passion. Amen. Que Dieu te bénisse aussi. Oui. Mais cela ne veut pas dire que nous devons être tous des Rahel ou des Philippe. Hein? Luc nous a bien rappelé que nous sommes tous différents, mais que nous faisons partie de la grande unité de la nature divine. Cela veut dire que tous, on doit avoir la même passion. C'est cette passion pour la parole de Dieu qui fait que le grand commandement de Jésus pousse encore aujourd'hui des gens à passer de la parole aux actes. Si nous lisons la Bible et nous y entrons dedans, nous ne pouvons que faire ce que Dieu nous demande. Voilà les grands commandements. Le premier, c'est le grand commandement, hein, « Allez donc et faites de toutes les nations des disciples. » Et après, Jésus dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc peut-être Dieu nous demande de partir, aller, ou il nous demande de prier pour que d'autres partent. Il nous demande de prier pour que nous puissions soutenir d'autres qui vont partir. Hein? Chacun a sa place, comme nous disons souvent dans ses prédications. Mais la question que je me pose, est-ce que le temps de la moisson est terminé? Voyons ici ce que a dit frère André, fondateur de Porte Ouverte. Il a dit un jour, si nous croyons vraiment que nous gagnerons ce monde à Jésus pendant notre génération, nous n'aurons qu'une passion, Jésus, nous n'aurons qu'une occupation, suivre Jésus. Nous n'aurons qu'un amour, Jésus. Il n'y aura parmi nous aucun spectateur. Tous seront engagés pour et avec Jésus. Bon, je me permets de dire que presque deux générations sont déjà passées depuis cette déclaration. Avons-nous gagné le monde à Jésus? Tout le monde. Avons-nous gagné Yverdon? Avons-nous gagné le quartier des Signes? Non. Nous n'avons pas encore fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque? Comment faire? C'est lorsqu'on comprend, qu'on prend conscience de l'amour passionné de Dieu pour nous, qu'on comprend mieux son désir d'aller toucher d'autres qui ne le connaissent pas encore. Mais est-ce que j'ai compris vraiment combien Dieu m'aime? Et c'est cela qui nous pousse à chercher les autres. Son désir est d'amener d'autres personnes à entrer en relation avec lui. Et les disciples savaient très bien, en acte 4, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Et plus loin, Paul dit, en Timothée, Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous savez, notre passion pour la parole de Dieu, pour la Bible, nous ouvre au monde spirituel, pour que nous nous saisissions de la passion du Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu dit, notre désir, c'est que tous soient sauvés. La passion de Dieu est notre passion? La passion de Dieu est-elle notre mission? Si nous sommes passionnés pour Dieu, nous sommes aussi actifs pour Dieu. La véritable intimité avec Dieu conduit à son cœur, à sa passion pour les âmes, pour la moisson, pour le prochain. Avec cette intimité, le cœur de Dieu devient notre cœur. Sa passion devient notre passion. Au fur et à mesure que nous développons une relation plus profonde avec Dieu, de même, notre passion grandit. Ils vont ensemble, ils vont de pair. On ne peut pas les couper. On ne peut pas être tout feu et flamme pour Dieu et rien faire pour notre prochain. Mais en ces moments-là, nous serons plus sensibles à ce que l'Esprit nous demande de faire. Si nous cultivons cette intimité avec Dieu. Voilà, nous arrivons vers la conclusion. Je vous donne deux citations. Le premier, c'est Stendhal, écrivain français du 19e siècle, qui a dit « La vocation, c'est avoir pour métier sa passion. » Et encore, il faut faire l'équilibre, un homme, une femme, Virginia Woolf, écrivaine anglaise du 20e siècle, il a dit « Nulle passion n'est plus forte dans le cœur de l'homme que le désir de faire partager sa foi. » Donc, vous savez, nous vivons dans une époque où la foi est de plus en plus diluée. Les lois et les règles de notre pays nous laissent de moins en moins de marge de manœuvre. Nous avons besoin de retrouver cette passion qui est l'origine et la source de notre appel, de notre vocation. Pourquoi on est là? Pourquoi Dieu nous a sauvés? Mais pour que nous puissions prendre d'autres avec nous. Oui, nous avons besoin de rechercher et retrouver ce désir d'éternité que Dieu a mis dans notre cœur, que nous puissions le partager plus loin. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous passionne? Est-ce que votre travail, votre famille, vos loisirs, vos activités sportives, votre argent, votre carrière? Tout cela n'est pas mauvais en soi. Mais il y a dans la parole de Dieu aussi une mise en garde pour chacun de nous. Et je vous dis, ne ratons pas la cible. Cherchons la passion de Dieu et non pas autre passion. Cherchons le Dieu vrai et vivant et non pas les idoles mortes de ce monde. Dans la Bible, nous trouvons qu'il nous parle des passions, mais c'est des passions négatives, n'est-ce pas? En Galates, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur propre nature avec ses passions et ses désirs. Et Paul dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice. Et encore, d'où viennent les conflits? D'où viennent ces luttes? Ce n'est pas de vos passions qui combattent dans vos membres. Oui, vous voyez, l'ennemi de nos âmes propose toujours une fausse version des bonnes choses de Dieu. Il a mis dans le marché des faux outils qui donnent le résultat contraire de ce que nous voudrons recevoir. Donc, ne ratons pas la cible. Cherchons et cultivons les outils que Dieu nous met à disposition lorsque nous recevons le baptême de l'Esprit. Cherchons la passion de Dieu qui est bonne et utile au développement de notre foi. Cherchons cette passion qui donne envie de passer des paroles aux actes. Dernière citation. Sur le site Top Chrétien, laissez votre cœur être consumé par la passion de le servir, de mieux le connaître, d'être rempli par sa parole et d'être utilisé par son royaume. Et je termine par la prière. Dieu notre Père, le jour de la Pentecôte, ta promesse s'est accomplie. Tu as bâti ton Église et tu l'as rendue participante à ta nature divine. Père, donne-nous un désir brûlant de te servir. Ensouffle en nous ta passion. Fais que tes enfants ici présents puissent te consacrer leur temps, leur talent et leur bien. Utilise notre vie pour ton royaume et pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen.